nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Durant le repas qu'elle prête dans la salle à manger, elle lui dit « Je ne veux plus que tu voies ce jeune homme. C'est un criminel et un bon à rien. » Elle lui dit « Vous dites n'importe quoi, je continuerai à le revoir. » Sa mère lui dit « Je saurai me débarrasser de lui et de sa famille. Tu verras. » Nathalie hausse ses épaules. Nathalie, le lendemain, dans leur café, dit à Gilbert que sa mère est folle et le déteste. Il lui dit « Ne fais pas de soucis, moi je t'aime et c'est l'essentiel, nous marierons malgré elle. » Il lui demande « Tu dois m'aimer très fort. » Il lui dit « Je t'aime tellement que je pense à toi sans arrêt. La nuit, ça me réveille. J'ai tellement envie de t'avoir près de moi. Nous marierons, malgré nos familles. Tu verras. Judith décide c'est de prendre un avocat pour défendre François. C'est maître Roger Fred, un homme de 30 ans, grand, mince, blond, très élégant. Comme François n'a pas d'avocat et n'a pas pu demander, Judith a donné l'ordre d'en chercher un pour défendre son protégé. Le ministre a fait un appel et maître Roger Fred est venu de lui-même se proposer. Il est reçu en premier par Judith dans son bureau. Elle lui demande « Pourquoi est-ce que vous vous êtes proposé pour défendre Monsieur Ducourt? Est-ce pour l'argent? Parce que vous savez que c'est nous qui allons vous payer. » Il lui répond « Non, pas du tout. Mais j'ai connu cette affaire par les journaux. Elle m'a fasciné. J'aime les gens qui sont hors du commun. Et puis ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas un criminel, enfin quelqu'un de bien méchant, et que même ceux qui l'accusent ne l'en veulent pas vraiment. La preuve, vous qui faites partie de l'accusation, vous lui payez un avocat. C'est rare et cela montre que c'est un jeune homme exceptionnel. » Elle lui dit « Je suis heureuse que votre client vous plaise et que même vous en dites que vous en avez de la sympathie. Je vous demande, c'est de le sortir de ce pétrin en douceur et de lui dire de se tenir à carreau. L'affaire n'est pas bien grave, elle doit pouvoir se régler facilement. La personne principal qui l'accusait et qui est une de ses victimes ne présente plus problème. Je l'ai convoqué et lui ai dit de se tenir tranquille. Mais la chose la plus difficile, c'est que Monsieur Ducourt reste tranquille et se fasse oublier. » L'avocat lui répond « Vraiment mieux, madame. Je vais en premier lieu essayer de sympathiser avec lui. » Lendemain, l'avocat va à la prison pour un premier contact avec François. Directeur de la prison et un garde viennent dans la cellule de François pour l'informer de cette visite. Le directeur est un grand homme fort, chauve d'un 50 ans, habillé en costume noir. Il a l'air autoritaire, mais pas méchant. Il dit à François, « Je vous informe, c'est que l'avocat de la défense va venir vous voir cet après-midi. » François est surpris, lui dit, « Je n'ai pas d'avocat. » Et toi lui dit, « Toute personne accusée a un avocat pour se défendre. C'est la loi. Et s'il n'en a pas un, on lui en fournit un. » François lui dit, « Ma foi, je veux bien le recevoir. » Il est curieux et se demande comment il va faire pour le défendre. En début d'après-midi, on fait entrer maître Roger Fred. François est déçu. Il est satisfait que ce soit un homme encore jeune qui a l'air sympathique, mais déçu parce qu'il s'attendait à ce que ce soit un vieux bonhomme revêche. Bon, je suis maître Roger Fred, votre avocat de la défense, si vous le voulez bien. Je lui dis, puisqu'il en faut un, autant que ce soit vous. Vous m'avez l'air sympathique. Merci. Roger trouve François extrêmement jeune. C'est beaucoup plus jeune que son âge. D'une beauté qui éblouit. Et puis ses petites mains, ses yeux qui pétillent et son sourire. Il est déjà fasciné par lui, se sent malgré lui attiré physiquement par François. François sent son pouvoir sur lui, ça l'amuse. Il lui dit, eh bien, asseyons-nous et s'asseoir à table. On a apporté une chaise en plus pour l'avocat. François lui demande, vous voulez boire quelque chose, un café? L'avocat lui dit, oui, pourquoi pas? Parce que vous savez, moi, je peux tout demander, dit François. François se lève, va taper à la porte. La trappe s'ouvre. Un garde apparaît. Du café pour deux, merci. Bien, monsieur Ducourt. Et François revient s'asseoir en face de Roger. Je peux tout demander. Tout demander. L'avocat lui sourit. Il regarde les mains à plat sur la table de François. Son porte-document. Et en sort une pochette rouge. Et lui dit, non, tout d'abord, c'est parler comme ça. Voilà, j'ai de moi-même demandé à vous défendre. Parce que je suis, disons, fasciné par votre histoire, comme beaucoup de personnes. Parce que vous avez vécu ce que beaucoup de monde rêve de vivre, c'est de changer de vie et de personnalité. Et puis vous êtes charmant, ce qui fait un plus. Pas pour vous. On ne peut pas vous en vouloir. Je souhaite ce que l'on ne vous reproche pas des choses trop graves ou que vous avez été, disons, entraîné dans des choses un peu graves. Vous êtes pour moi, un charmant Arsène Lupin, jeune Arsène Lupin, qui aurait l'allure d'un délicieux jeune homme. À part des choses que l'on sait, en avez-vous d'autres? Je ne sais pas moi, vol, crime, François lui fait. À part les faits qu'on m'accuse, j'ai séduit, enfin des personnes ont été séduites par moi. Très bien. François lui dit, et puis aussi il y a des choses, mais c'est pas sur le dossier. Peut-on, en tout cas, est-ce que des gens peuvent vous accuser de ces choses? François lui dit, il n'y a que moi qui les sais, et c'est pas moi qui irait les divulguer. Très bien. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le garde qui vient avec le café. Dépose sur la table et s'en retourne. Ils boivent en silence. Et l'avocat, toujours séduit par ce délicieux bébé, lui dit, qui avait décidé de vivre comme ça, en ayant différentes identités et en vivant sur le dos des autres, n'auriez pas dû, c'est d'avoir des attaches, de chercher à vivre comme tout le monde. C'est ça qui vous a perdu. Une personne qui vit comme vous doit disparaître rapidement en étant mariée Et si vous aviez eu un enfant, ça vous a empêché de disparaître et d'être libre. Si vous étiez resté seul, sans attache, vous auriez eu encore à courir le monde pour la grande joie des personnes qui s'ennuient dans leur vie. Mais malheureusement, vous êtes partie de ces personnes qui s'imaginent que le bonheur se trouve dans une vie régulière et normale. C'est faux. Le bonheur se trouve dans la vie que vous aviez menée avant. Heureusement que vous faites partie de ces gens à qui on pardonne trop. Vous êtes le charmant bébé. Bébé qui fait des bêtises, mais que l'on aidera. Surpris de ce que vient de lui dire. C'est du délire. Il est fasciné par lui. L'avocat ne sait plus ce qu'il dit. Il est pris par François. François rit et se dit que c'est un fou. L'avocat dit, « Maintenant, il va falloir c'est que vous sortiez d'ici. Comment ? Nous allons réfléchir. J'ai pensé à une chose qui pourrait vous aider et vous rapporter gros. Que vous avez de temps, vous pourriez c'est écrire vos souvenirs. Vous raconter votre enfance, surtout si c'est une enfance triste et misérable, ça fera bien. Vous raconter les gens que vous avez rencontrés, si c'est des personnes célèbres, ce sera encore très bien. Surtout, faites attention, pour éviter les procès, changez les noms de certaines personnes. Ensuite, si ce livre est édité et qu'il a du succès, vous pourriez le proposer pour en faire un film à un producteur. Et si le producteur accepte, vous demanderiez c'est être co-réalisateur pour pouvoir suivre la chose pour que le film puisse représenter exactement ce que vous voulez. Et ensuite, si le film a du succès, vous devenez producteur. Vois qu'il délire et le laisse faire. L'avocat va le voir tous les jours. Il est fasciné par François. Et François voit qu'il est fasciné par lui. François écrit ses souvenirs pour s'occuper. Et puis ça peut rapporter gros. On ne sait jamais. Bien sûr, il arrange les choses. Il ne parle pas vraiment de sa vraie famille. Mais en invente une moins, disons, moins sombre. Et tout aussi folklorique. Il parle aussi de ses aventures. Cachant bien entendu certaines choses et en inventant d'autres. Judith apprend par le directeur de la prison que François écrit ses souvenirs. Elle convoque l'avocat et lui dit « Pas publier ça, c'est dangereux. Vous pouvez avoir des ennuis si certaines personnes se reconnaissent. Je vais faire une chose. Je vous donnerai la somme, comme si le livre avait été publié. C'est ce qui se passe. Les jours passent. Le dossier est prêt pour le procès. C'est simplement un procès pour remboursement de prêt. François plaidera pour irresponsabilité à régler des affaires d'argent qui le dépassent et dira que ce sont les gens eux-mêmes qui ont mis de l'argent dans ces affaires. Il plaide coupable, mais dira pour se défendre que le monde des affaires est un monde très dur. Et que lui a débuté dans la vie sans rien. Le procès se fait à huis clos, sous ordre du ministre de la Justice, du président de la République et du groupe Franc Blanc, qui est parti civil, mais en même temps chose exceptionnelle et très rare, de la défense. Le procès a lieu. Il plaide coupable, avec circonstances atténuantes, sa jeunesse et son manque de professionnalisme. Donc, innocent si ses affaires n'ont pas marché. Pour ce qui est de ses différentes identités, dans la production, le monde du cinéma, cela est monnaie courante. Et puis Chaban Delmas, que tout le monde a voté à des élections sous ce nom-là, n'était pas son nom. Alors, etc., etc. L'avocat plaide tout ça avec brio. Il lui suffit de regarder François pour aller de l'avant prendre des ailes. Les banques, les hommes d'affaires, les particuliers défilent à la barre. Chose rare, les banques ne l'en veulent pas, à François. Ils disent que c'est quelqu'un de charmant et qu'il était un très bon ami. S'il a fait de mauvaises affaires, c'est à cause que les autres l'ont laissé tomber, etc. Tout le monde trouve François délicieux, charmant. Même Carole, la principale accusée, le dit. On se demande pourquoi elle a fait tout ça. Tout le monde lui en veut. La Framboise, pour camoufler ce dossier, décide de payer les dettes de François. Elle est plaignante et accusatrice. Et elle fait la défense. Elle dirige tout, et ceci sous la direction de Judith. La femme de François n'a pas voulu venir au procès. Elle est en Autriche et va se remarier. François est très triste. Puisque tout le monde n'en veut pas à François et que tout le monde sera remboursé par la Framboise, il est donc acquitté. Tout le monde est heureux. François quitte la prison. Il remercie l'avocat. L'avocat lui a donné un cadeau. On ne sait jamais. Et l'avocat lui a donné son adresse. Et François lui donnera la sienne. Quand il en aura une. Berry se sent seul. Il a peur. Il n'ose plus aller voir ses connaissances, même Judith. D'ailleurs, on lui dit de rester tranquille. Il va habiter l'hôtel, place de l'Étoile, où il habitait avant. L'appartement, il peut le prendre parce qu'il y a un peu d'argent d'avance. Il n'a plus goût à rien. Dehors, dans les lieux, restaurants, cafés, il voit que l'on cherche à le séduire. Les gens sont séduits par lui. Et il se dit qu'il est idiot de profiter de la vie à fond. Puisque tout n'est qu'illusion, il faut en profiter. Il se décide de vivre comme avant, d'être l'éternel séducteur à multiples identités. Monsieur Bébé. Alors commence pour lui une vie mystérieuse de débauche, de luxure, avec des gens de passage, louches trouvées au hasard. Il se perd. et s'enivre dans la luxure pour oublier sa vie. Fait des choses bizarres avec des gens de toutes sortes, des zombies de la nuit, travelots, vieilles folles, hommes sans âge. Cherche à leur prendre de l'argent, mais surtout à les séduire et les faire mourir pour lui. Certains même, en mort presque, il est devenu tyrannique, sadique, par jeu, pour se prouver qu'il existe. Il se dit que puisque sa femme l'a quitté, il doit vivre comme tout le monde. Tant qu'il soit Monsieur Bébé, celui dont on aime son image, mais qui donne jamais son corps. Il ne doit être qu'une illusion pour les autres, une illusion qui fascine jusqu'à la mort.
Nuit
qui revient appelé de ses aventures. Il marche dans la rue, presque déserte, humide. Un clodo, un jeune clodo, cheveux longs en bataille, roux, est habillé en loque. Prends une petite somme, s'il te plaît, façon son sac à. Le jeune homme, son écran, le lui donne. Je me dis, je te connais, toi. Moi, oui. Tu es bien François Ducourt? Oui, et toi? Moi, Mathieu Servan. Vous ne vous souvenez plus de moi? François lui dit. Oui, me semble. Tu sais, c'est vieux. Je crois que nous sommes vus chez Franblanc à une de leurs soirées et avec Alexis. Prudent, non? Mathieu lui dit. Oui. Et que t'est-il arrivé? Mathieu lui dit. J'étais éjecté de l'entreprise où je travaillais. C'est mon meilleur ami qui l'a fait. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rien. J'attends. Je vais m'en aller. J'ai tout quitté. Je déteste ce monde. Je ne pardonnerai jamais la trahison de mon ami. Jamais je pardonnerai la trahison d'Alexis. François lui tend son écran. Je vous ai mis une somme qui va vous permettre de vivre pendant quelques jours. Merci. Et il s'éloigne. Il a disparu dans la nuit. Les jours passent. Un jour, il est dans sa chambre d'hôtel. Le téléphone sonne. Il décroche. Allô, oui? Bonjour, je suis Roger Fred. Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Et surpris, il se demande ce que lui vieux, ce vieux Roger. Et lui dit, j'ai entendu d'avoir de vos nouvelles, mais rien, François lui dit. J'ai eu assez à faire. J'ai l'impression que tout vous l'enfoncez dans la nuit. C'est le crépuscule de son monde. Ce sens-là est triste. Les appels téléphoniques semblent enfoncer encore plus. Et décide comme un suicide, c'est d'y répondre. S'il veut, il saura. Il aura tout. De lui. Roger lui dit, on peut se voir si vous voulez. Oui, je veux bien. Mais en ce moment, je sors peu. Nous voyons où? Roger lui dit, vous pourrez passer la soirée chez moi. J'habite une villa à Versailles. Je vais vous chercher si vous voulez. Oui, je veux bien. Bien, alors, ce soir à 19h, en bas de votre hôtel. Et le soir à 19h, Roger entre dans l'hôtel où habite François. Il va vers l'école. Roger est ému. Dans ses rêves, il fait encore plus jeune que dans ses pensées. Le voyant, c'est encore pire. Il lui fait « Bonjour, bonjour » et François lui dit « Eh bien, viens !» et ils sortent de l'hôtel. Roger le fait rentrer dans sa voiture. En conduisant, il lui demande « Tu vas bien ?»« Oui, ça peut aller. Tu as l'air bien maigri. »« Oh, tu trouves, peut-être. Tu sais, la vie n'est pas facile pour moi. J'ai plus personne pour m'aider. » Roger lui dit « Maintenant, tu m'as ?»« Merci. » Roger habite une villa dans une petite rue tranquille à Versailles. C'est une vieille maison bourgeoise du 19e siècle de 2 étages. Elle est restée grise, volet vert. Il y a un petit jardin sur le devant. Derrière, il y a un grand parc. La rue n'est qu'éclairée que par des réverbères, quelques réverbères. Roger va ouvrir le portail. Dans la propriété, puis le fait entrer, éclaire et le fait entrer. La maison est sombre mais propre. L'escalier qui monte à l'étage est en pierre et très large, avec une belle rampe sculptée de pierre. Roger lui dit « Viens, nous allons au salon. » François le suit. Et il monte à l'étage. Au premier, il le fait entrer dans une grande pièce avec cheminée et balcon. Meublé salon. François lui demande « Tout ça c'est à toi ?»« Oui. » »« Et tu vis seul ?»« Oui. » »« Tu en as de la chance. » Lui dit « Oui, mais je travaille beaucoup, tu sais. » François lui dit « Ah. » »« Et toi ?»«
Moi ?»
Il semble triste, il dit « Je dis plus rien. »
Je vais à l'hôtel. Et tu sais, c'est pas drôle de vivre à l'hôtel. La nuit, j'ai personne et j'ai peur qu'on rentre dans ma chambre. Je suis seul, personne pour me défendre. Tu savais comme c'est dur. C'est très dur. Et personne. Il se pend au cou de Roger et met sa tête sur son épaule. Roger Émile lui dit « Ça va aller maintenant, ça va aller. Tu verras, tu n'es plus seul. » François laisse sa tête et lui dit « C'est vrai ? Oui, bien sûr. Tu me gardes avec toi alors ? Oui, bien sûr. Oh que je suis heureux. » Il l'embrasse sur la joue. Roger est très ému. Après le repas, une fois que c'est fini, François lui demande « Je passe la nuit chez toi ?» Passer la nuit chez toi ?
Oui, bien sûr, puisqu'on a décidé de ne plus se séparer.
Oh, merci !
Avant d'aller se coucher, il dit à Roger,
j'ai mal à la tête, j'aimerais c'est dormir seul, tu comprends ? J'aimerais c'est que nos rapports soient pas comme les autres.
Roger Émile lui dit,
oui, bien sûr.
Il lui a donné une chambre près de la sienne. François a bien dormi. Roger, ému et troublé,
d'avoir près de lui l'être qui lui est le plus cher au corps, un mâle. Le matin, François et Roger sont allés chercher les affaires de François à l'hôtel. Et François s'est installé. Une fois que c'est fait, il retrouve au salon Roger qui est assis à lire. Il dit, autant que je te dise, je n'ai rien, absolument rien. Roger lui dit, ça ne me gêne pas, pas du tout. Et commence une vie à deux. Roger va travailler, François reste à la maison, à rêvasser et faire la grosse matinée. C'est Roger qui lui paye tout. Il lui a même payé une voiture. François s'est aperçu que c'est plus il fait l'enfant démuni, plus il en a. Alors, il y va. Par contre, comme remerciement, Roger n'a que quelques baisers, des remerciements verbaux et rien d'autre. C'est ce qui est attriste et émerveille Roger, parce qu'il pense qu'il est pur et que pour ça il n'y pense pas, il ne pense pas aller plus loin. Alors c'est émerveille Roger. Des jours passent. Personne ne sait où est passé François. Un soir, où François est au salon, ils sont tous les deux assis devant le feu de cheminée. François lui dit, est-ce que tu dis que tu m'aimes? Moi aussi je t'aime, et je t'aime tellement, c'est que j'aimerais être ton fils. C'est bête, hein? François est tout fier et lui dit, mais non. Pas du tout. Je lui dis, j'aimerais tant être ton fils. Si tu savais, je serais fier. Et ce serait le plus beau cadeau. Un très beau cadeau pour moi. Et s'il n'y a que ça qui peut te rendre heureux, je veux bien. Et Roger fait les papiers pour l'adoption. C'est facile puisque François est majeur et a pas de famille. François devient donc le fils adoptif de Roger et son héritier. Il est très heureux. Mais Roger ne peut plus l'aimer comme un amant. Il doit l'aimer comme un fils. C'est dur pour lui, parce que chaque fois qu'il le voit, il fond. François l'appelle papa. Il en est fier et effrayé, mais il ne peut pas faire autrement que d'accepter, puisqu'il est devenu son fils. À 30 ans, il a un grand garçon comme ça. Les lois dépassent la nature. Personne ne sait que François est devenu le fils de Roger. Les jours passent. François demande de plus en plus de choses à Roger. Il veut aussi partir seul en vacances pour se détendre. Cela attriste beaucoup Roger. De temps en temps, Roger lui demande de penser à son avenir. Tu dis, trouve-toi un travail. François lui dit, mais j'ai bien le temps, papa. Et il l'embrasse sur le front. Roger est heureux sans l'être. et se demande s'il n'a pas fait une bêtise en devenant le père de François. François sort souvent le soir à Paris.
Pouvez-vous m'arrêter? J'ai fait rougir Puymol.
Ça va?
J'ai foutu la paix un peu.
Il fréquente des filles, danse, rit, fait le fou.
Comment tu la trouves, Salim?
Un soir, Roger le rencontre à l'une de ses soirées. Ils ont été invités séparément, l'un ne le sachant pas. François est près d'une jeune fille de 18 ans, blanche, robe blanche, blonde. Roger va à eux. François lui dit « Salut, salut ». Roger demande « Vous amusez bien ?» François lui dit « Oui, laisse-moi, s'il te plaît. Je suis avec la fille. » Et Roger s'éloigne. Il entend la fille demander « Qui c'est celui-là » François lui dit « Rien, c'est mon père. Il a un peu de crampon. » Roger en souffre beaucoup. Il souffre d'avoir entendu ça. François sort de plus en plus et laisse Roger seul. Roger voit qu'il est souvent avec la même fille. La même fille qu'il a vue. Et ça lui fait du mal. Un matin, lorsqu'ils prennent leur petit déjeuner, Roger lui dit « Beaucoup ces derniers temps. » François lui dit « Et alors? Tu vas tout de même pas m'empêcher, non ?»« Arrête de jouer les rabat-joie. » Roger lui dit « Non, mais tu me laisses un peu trop souvent seul. Tu pourrais bien rester de temps en temps avec moi. » François lui dit « Tu es comme tous les pères, toi. Tu veux pas que je sorte. »« Non, mais tout de même, tu pourrais rester un peu près de moi. » François lui dit « Écoute, j'ai besoin de vivre, moi. » Et j'ai toujours, je te l'ai toujours dit. Alors laisse-moi. Laisse-moi vivre. Tu es mon père, tu l'as voulu, non? On ne peut pas être, avoir des rapports tous les deux comme des copains. Non. Roger est triste et se dit qu'il a dû faire une bêtise. Il déprime et François le traite de plus en plus comme un père. François a complètement oublié tout ce qu'il lui devait. Roger n'ose pas le lui dire. Chaque fois qu'il fait une réflexion à François, François le menace de le quitter. Il lui dit « Je suis suffisamment grand pour vivre seul, non ?» Alors Roger ne dit plus rien. Il aime toujours et ça lui fait très mal de voir les rapports qu'ils ont ensemble. Un matin, François dit à Roger en prenant son petit déjeuner « J'ai une très grande nouvelle à te dire. » François se dit qu'il a trouvé du travail. « Je t'écoute. Eh bien voilà, j'ai envie de me marier. » Roger voit tout tourner, à la gorge serrée. François lui dit « Désir que j'essaye de mettre chez moi et fonde une famille ?» Roger lui demande « Tu te maries et tu me laisses ?»« Mais pourquoi ? Il faut bien que j'aie ma vie, moi aussi. » Et puis, comme j'ai pas d'argent, j'ai pensé, c'est que tu pourrais m'avancer mon héritage. Roger lui dit, mais je ne suis pas mort. François lui, mais bien sûr, mais qu'est-ce que ça peut te faire que tu me le donnes maintenant? Tu peux bien le faire, non? Tu m'as dit que tu ferais tout ce que je te demanderais. Alors, pourquoi pas ? tu peux bien me donner maintenant ? Roger lui dit. Je sais pas, il se dit. Et une fois qu'il aura tout, il s'en ira. Ce qu'il veut, c'est prendre ma fortune. Il ne m'a jamais aimé. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.